Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Planète Info et sur la 1337, il est 19h, soyez les bienvenus lors de faire un point sur l'actualité du jour. Avec à la une ce soir, bien sûr, les législatives et le nombre de procurations qui s'établit à 3,3 millions depuis le 10 juin, selon le ministère de l'Intérieur. Un article est à retrouver sur notre site internet. Depuis le début de la campagne, 51 candidats ont été agressés, a par ailleurs annoncé Gérald Darmanin. Dans ce journal, nous prendrons des nouvelles aussi du travailliste Keir Starmer, qui a été nommé Premier ministre par le roi Charles III, avec une victoire triomphante des Labour aux élections législatives. Et puis 8 ans après la finale perdue à domicile, l'équipe de France retrouve le Portugal de Cristiano Ronaldo en quart de finale de l'Euro 2024 et va tenter de frapper enfin un grand coup après un début de tournoi terriblement décevant. Dans ce journal, nous parlerons de la météo aussi, un temps orageux avec des baisses de température pour ce premier week-end de vacances d'été. Et puis dans notre reportage, à la fin de journal, nous partirons au Venezuela, on vote aussi, mais cette fois pour élire un président. Le nombre de procurations s'établit à 3,3 millions depuis le 10 juin selon le ministère de l'Intérieur. Depuis le début de la campagne, 51 candidats ont été agressés, a par ailleurs annoncé Gérald Darmanin. Planète Info reportage. À deux jours du dénouement de ce scrutin historique lors duquel le Rassemblement National espère encore la majorité absolue, la continuité de l'État sera assurée et garantie vendredi. Le Premier ministre Gabriel Attal, tout en restant évasif sur son sort personnel. Le gouvernement pourrait être géré et gérer les affaires courantes aussi longtemps que nécessaire, a-t-il, en marge d'un dernier déplacement de campagne à Paris, semblant préparer les Français à une forme de gouvernement provisoire le temps que le président Emmanuel Macron lui trouve le successeur à Matignon. Reste à savoir si ce dispositif serait prolongé pendant les Jeux Olympiques qui débutent le 26 juillet et qui focaliseront l'attention du monde. En attendant le verdict des urnes, Emmanuel Macron reçoit ses options. Il a d'ores et déjà chargé l'ancien ministre Julien de Normandie de regarder les hypothèses de l'après 7 juillet et ce qu'elles impliquent techniquement, institutionnellement, selon deux sources proches de l'Élysée. Sans dévoiler ses intentions, Gabriel Attal s'est en tout cas montré désireux de s'exprimer à l'issue du second tour. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui rappelé sur BFM TV que la coutume républicaine, après les législatives, voulait que le gouvernement démissionne. Mais si le président me demande de rester quelques heures, quelques jours de plus, le temps de former un gouvernement, je le ferai. C'est ce qu'on appelle les affaires courantes, a-t-il ajouté. Même si sa volonté n'est pas de rester en place à Beauvau, étant donné que les conditions qui semblent se dessiner à l'Assemblée. Marine Le Pen a qualifié pour sa part de sérieuses les chances du Rassemblement National d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée, estimant que les projections des sièges ne sont pas une science exacte. Et elle a aussi critiqué vendredi les leçons de morale du capitaine de l'équipe de France de football Kylian Mbappé qui avait appelé à veiller à voter pour le bon côté. Trois sondages donnaient encore vendredi le parti au parti d'extrême droite et ses alliés une majorité en érosion, toutefois 200 à 230 sièges pour Elab, 205 à 230 pour Opinion Way et 175 à 205 pour Ipsos, une progression qui serait spectaculaire par rapport aux 88 députés RN sortants, mais insuffisant pour atteindre seule la majorité absolue de 289 députés. Les mêmes instituts voient le nouveau Front Populaire deuxième, 165 à 190 chez Elab et 220 à 140 pour Elab et 118 à 148 pour Ipsos qui profiterait notamment des nombreux désistements de candidats hostiles au RN. À noter qu'à partir et que depuis 18h, plus aucune communication n'est possible pour tenter de tracter ou de promouvoir sa campagne. Réponse donc dimanche à partir de 20h. L'ex-star du rap Moa La Squale, 29 ans, a été condamné vendredi à Paris à 4 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis pour des violences conjugales envers 6 ex-compagnes et des faits qu'il a largement niés. À l'international, le travailliste Keir Starmer a été nommé Premier ministre par le roi Charles III avec une victoire triomphante des Labour aux élections législatives. Après sa défaite, Rishi Sunak a annoncé sa démission de la tête au parti conservateur. Un reportage pour Planète Info et la 1337 d'Arthur Bex avec les informations à Londres de l'AFP. Nous reconstruirons le Royaume-Uni, a lancé le dirigeant de 61 ans devant Downing Street après avoir été chargé par le roi Charles III de former un gouvernement dont les principaux membres devraient être annoncés dans la journée. Radieux Monsieur Starmer, ancien avocat et des droits de l'homme, a longuement reçu embrassade et félicitations des dizaines de ses soutiens rassemblés sur les trottoirs de Downing Street, certains agitant des drapeaux britanniques. Brique après brique, nous reconstruirons l'infrastructure des opportunités, a-t-il déclaré en citant éducation et logement abordables et insistant sur l'idée de service en politique. Il a promis de se battre avec son gouvernement jour après jour pour que les Britanniques puissent à nouveau croire à un avenir meilleur pour leurs enfants et unifier notre pays. Face au défi d'un monde précaire, il s'est engagé à une reconstruction calme et patiente. Notre travail est urgent et nous le commençons dès aujourd'hui, a-t-il ajouté, avant de franchir avec son épouse Victoria la porte du 10 Downing Street. Je ne vous promets pas que ce sera facile, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour changer le pays, avait-il cependant averti à l'aube après la victoire annoncée de son parti. Peu avant, dans son premier discours, le Premier ministre, le conservateur Rishi Sunak, au pouvoir depuis 20 mois, s'est dit désolé auprès des Britanniques. Vous avez envoyé le signal clair que le gouvernement du Royaume-Uni doit changer et votre jugement est le seul qui compte, a-t-il déclaré, endossant la responsabilité de l'échec historique des conservateurs qui ont enregistré leur pire résultat en un siècle. Il a annoncé sa démission prochaine de la tête du parti conservateur. Parmi les premiers rendez-vous qui attendent Keir Starmer, le sommet du 75e anniversaire de l'OTAN la semaine prochaine à Washington. Selon les résultats quasi complets, le Labour a décroché 412 sièges, bien au-delà du seuil des 326 pour obtenir la majorité absolue à la Chambre des communes et pouvoir gouverner seul. C'est juste en deçà du score historique de Tony Blair en 1997 qui avait remporté à 418. Le parti conservateur est réduit à 121 députés élus contre 365 il y a plus de 5 ans sous Boris Johnson. Plusieurs poids lourds du parti conservateur ont été emportés par la vague de rejet, parmi eux l'ancienne première ministre Liz Truss et les ministres de la Défense Grant Shapps, ainsi que les relations avec le Parlement Penny Mordaunt, qui était vu comme une possible future chef de parti. Londres avec les informations de l'AFP pour Planète Info. Un reportage Planète Info. L'activité minière en Indonésie, et en particulier l'extraction de charbon, a provoqué la destruction de quelques 120 000 hectares de forêt entre 2001 et 2023, selon une nouvelle étude s'appuyant sur des images prises par satellite. Diffusée cette semaine, l'étude de The Tree Map, une start-up spécialisée dans la protection de l'environnement, a utilisé des images de haute résolution prises par plusieurs satellites et deux décennies de données issues du programme américain d'observation de la surface terrestre Landsat pour cartographier les mines et suivre la déforestation. Les vols ont progressivement repris ce vendredi à l'aéroport de Catane en Sicile après une brève suspension en raison d'une éruption de l'Etna, plus grand volcan en activité d'Europe, dont les cendres ont envahi l'espace aérien. La piste couverte de cendres a été nettoyée, permettant la reprise des vols au départ de l'aéroport. Les arrivées sont pour l'heure limitées à 2 par heure, a indiqué la société de gestion de l'aéroport. On passe au sport à présent, et le sport, l'un sert le plomb, l'autre retourne au laser. Giovanni, Mefes Piricard et Arthur Fils sont amis depuis qu'ils ont 10 ans. Ils ont progressé ensemble et font pour la première fois des étincelles ensemble en grand chelem à Wimbledon, où ils tenteront samedi d'atteindre les 8e de finale. Et puis 8 ans après la finale perdue elle à domicile, l'équipe de France retrouve le Portugal de Cristiano Ronaldo en quart de finale de l'Euro 2024 et va tenter de frapper enfin un grand coup après un début de tournoi terriblement décevant vendredi à Hambourg. Vous écoutez Planète Info et la 1337, il est 19h09, l'heure de faire un point eh bien, sur vos conditions météo. Et pour vos conditions météorologiques, eh bien, le temps est assez perturbé dès le début de la matinée avec de nombreux orages de l'Occitanie jusqu'à la Bourgogne. 14 à 16 degrés côté température, d'ailleurs jusqu'à 17 à 20 degrés dans le sud-est. Les maximales sont en baisse et ne dépassent pas 17 à 20 degrés sur l'extrême nord-ouest, 19 à 24 degrés ailleurs, jusqu'à 24 à 30 degrés dans le sud-est. Voilà pour votre météo. Et puis dans ce reportage, dans notre reportage du jour, nous partons au Venezuela. On vote aussi dans ce pays, mais pour élire un président. Un reportage d'Arthur Beck, c'est les informations de l'AFP pour Planète Info et la 1337 à Caracas. Une marée rouge avec des milliers de personnes, drapeaux, photos de l'ex-président Hugo Chavez et de l'actuel Nicolas Maduro. La campagne électorale pour la présidentielle du 28 juillet au Venezuela a officiellement débuté jeudi avec une démonstration de force du pouvoir, mais aussi une forte mobilisation de l'opposition. À moins d'un mois du scrutin, les incertitudes sont légion. Dans la rue, les mêmes questions reviennent. Les élections auront-elles lieu ? Edmundo González Ubarratia, le candidat improvisé de l'opposition, sera-t-il sur les écrans des machines à voter ? Monsieur Maduro peut-il mobiliser dans les rues ? Arrestations, harcèlement de commerçants travaillant avec l'opposition, inéligibilité, la campagne démarre également avec une opposition qui accuse le pouvoir de la persécuter, alors que le gouvernement ne cesse de lui imputer des complots et actes terroristes. La plupart des sondages donnent l'opposition en tête des intentions de vote. Nous gagnons et nous gagnons bien, mais on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Préparez-vous à la raclée que nous allons leur donner. A toutefois annoncé jeudi, M. Maduro et ses partisans près du palais présidentiel dans le centre de Caracas. Nicolas Maduro, qui brigue un troisième mandat après avoir succédé à son mentor, Hugo Chavez, de 1990 à 2013, sent-il le danger ou la possibilité d'une défaite ? Ces dernières semaines, il a intensifié son programme, sillonnant lui aussi le pays, tout en faisant d'innombrables apparitions à la télévision. Jeudi, à Caracas, des milliers de partisans sont descendus dans la rue au son de ses chansons de campagne, Gallo Pinto, coq de combat, surnom qu'il s'est donné il y a quelques semaines. Il promet une reprise économique après une crise sans précédent qui a vu le PIB, produit intérieur brut, se contracter de 80% en 10 ans. 7 des 30 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays, selon les Nations Unies. À chaque sanction, une solution. À chaque agression, plus qu'une révolution. Aujourd'hui, une nouvelle ère miraculeuse et bénite s'ouvre. Et nous allons connaître le Venezuela de la prospérité et du bien-être, a-t-il notamment crié. Dansant sur scène avec un groupe de musiciens, M. Maduro a clos le meeting en mimant un combat de boxe dans lequel il étalait son adversaire imaginaire. On va remporter une victoire éclatante. Ce qu'on va avoir va donner des frissons, affirme Juan Molina, motard de 46 ans. On sait qui sont les ennemis de la patrie, l'opposition. Si elle s'oppose à nous, on la combattra, par la force, avec justice s'il le faut, s'emporte-t-il. Le pouvoir a aussi organisé des manifestations dans 70 villes, soit de nombre d'années qu'aurait Hugo Chavez cette année. L'opposition a également vu grand avec le coup d'envoi à Caracas d'une caravane qui doit sillonner tout le Venezuela dans les prochains jours, avec en tête de cortège la leader de l'opposition Mariana Corina Machado, saluée par des milliers de partisans dont beaucoup en blanc. Vainqueur de la primaire mais déclarée inéligible par le pouvoir, elle a déjà parcouru tout le pays en voiture car les autorités lui interdisent de prendre l'avion. Dans chaque ville, Madame Machado est accueillie comme une véritable rockstar. Une foule d'admirateurs se presse pour entendre ses promesses de changement. Elle fait désormais campagne pour Edmundo González Urrutia, 74 ans, un ancien ambassadeur et personnage discret qui a accepté de la remplacer au pied levé. Cette force ne peut être arrêtée. C'est bien plus qu'une campagne électorale, c'est un sentiment profond pour la liberté du Venezuela, a-t-elle déclaré. Je suis venu parce que je le voulais, personne ne m'a forcé, souligne Raiza Ramirez, 52 ans, infirmière venue avec cinq de ses collègues. Je suis ici parce que je sens que nous sommes maintenant libres, le Venezuela a mis fin à la dictature. Aujourd'hui commence la renaissance de l'espoir et le chemin du changement pour le Venezuela, a dit M. González, portant le maillot du football de l'équipe nationale qui vient de se qualifier pour les quarts de finale à la Copa América. M. Maduro cherche à faire lever les sanctions et normaliser les relations du Venezuela sur le plan international après le refus d'une partie de la communauté internationale de reconnaître sa victoire en 2018 lors d'un scrutin boycotté par l'opposition.